VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 17 février 2022, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Jacques Aristide.
Nous commençons par les titres.
Le président ivoirien Alassane Ouattara estime que le retrait attendu des troupes françaises et européennes du Mali crée un vide.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce à nouveau les exactions des forces nationales et étrangères en Centrafrique.
La junte au pouvoir à N'Djamena accuse le chef rebelle tchadien Timane Erdimi de chercher un soutien russe.
En Guinée, le leader politique Sélou Délène Diallo est visé par une enquête pour corruption présumée.
En RD Congo, des négociateurs de la présidence retenus par un groupe armé en Ituri.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa assure qu'il veut éviter de nouvelles violences xénophobes.
Au Brésil, le bilan encore provisoire des inondations près de Rio de Janeiro s'établissait hier soir à 94 morts.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le président ivoirien Alassane Ouattara est d'avis que le retrait attendu des troupes françaises et européennes du Mali crée un vide qui va obliger les armées ouest-africaines à être en première ligne dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Le point avec Nani Talani.
Le départ de Barkhane et Takuba crée un vide. Nous serons obligés d'acheter des armes, d'avoir une plus grande professionnalisation, mais c'est notre devoir aussi, a affirmé Alassane Ouattara dans un entretien avec des médias français. Plusieurs dirigeants africains et européens ont été réunis hier soir autour du président Emmanuel Macron à l'Élysée pour entériner le retrait des troupes françaises et européennes du Mali. Un redéploiement régional pour poursuivre la lutte antiterroriste au Sahel est envisagé. Nous considérons que la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel pour le Mali, pour le Burkina Faso, pour le Niger et pour les pays côtiers, a assuré le président ivoirien. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense, nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières. Nous prendrons toutes les mesures possibles sans sécurité, il n'y aura pas de développement, a-t-il ajouté. La décision de retrait des troupes françaises du Mali après 9 ans de présence intervient dans un contexte de crise aiguë entre Paris et Bamako.
Ajoutons que l'Union européenne et l'Union africaine tiennent un sommet ce jeudi et ce vendredi à Bruxelles.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce à nouveau dans un rapport remis mardi au Conseil de sécurité des exactions commises en Centrafrique par les forces nationales et leurs soutiens étrangers, une allusion aux paramilitaires du groupe privé russe Wagner.
La junte militaire au Tchad a accusé hier le chef rebelle Timane Erdimi de l'UFR, Union des forces de la résistance, de vouloir faire appel à des paramilitaires russes pour faire dérailler un processus de réconciliation nationale et renverser le pouvoir. Monsieur Erdimi est accusé d'avoir sollicité dans la Centrafrique voisine, où il est son tout-puissant, l'aide de paramilitaires de la société privée russe Wagner.
En Guinée, l'ex-premier ministre et chef du principal parti politique, Sélou Délène Diallo, est visé par une enquête pour corruption et enrichissement illicite. Les faits présumés remontent à 2002, lors de la cession des biens d'Air Guinée en faillite. Mohamed Oumfa nous en dit plus.
Après la dissolution de la défunte compagnie en 2002, la Guinée avait décidé de vendre ses 2 avions et autres biens. Dans la cession de ces biens de l'État, certains cadres de l'État et un opérateur économique ont commis des infractions graves à la loi pénale, a dit mardi soir à la télévision nationale Ali Touré, procureur de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il a notamment cité Sélou Délène Diallo, ministre des Transports au moment des faits, Cheikh Amadou Camara, alors ministre de l'Économie, ainsi qu'un directeur d'un service de privatisation et un opérateur économique. Sélou Délène Diallo et ses collaborateurs ne se reprochent de rien, a réagi son parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée. L'UFDG se dit heureux de constater que le dossier est transmis à la CRIEF afin d'apporter toute la lumière sur cette affaire.
En République démocratique du Congo, deux anciens prisonniers de la Cour pénale internationale et six accompagnateurs étaient retenus mercredi par des miliciens Codeco en Ituri, dans le nord-est du pays, au moment où ils négociaient leur reddition, selon des sources concordantes.
Les ex-chefs de guerre Thomas Lubanga, Germain Katanga et Floribert Ndjabou sont chargés par le président Félix Tshisekedi de négocier un cessez-le-feu et la démobilisation des miliciens en Ituri. Un porte-parole des rebelles explique que leur détention par la poursuite des bombardements de l'armée pendant la réunion avec les négociateurs.
Au Rwanda, la police a accusé hier le chanteur et poète rwandais Innocent Bahati, porté disparu depuis plus d'un an, d'avoir rejoint un groupe rebelle en Ouganda. Le RBI, bureau d'enquête du Rwanda, a porté ses accusations à l'encontre de M. Bahati quelques jours seulement après la parution d'une lettre ouverte au président rwandais Paul Kagame demandant son aide pour le retrouver. L'ONG américaine Human Rights Watch a qualifié de suspecte la disparition de M. Bahati, qui a publié des poèmes critiques de Kigali.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa affirme que le gouvernement surveille attentivement les manifestations contre les migrants illégaux afin d'éviter des débordements xénophobes. Nathalie Barge pour les détails.
Le président sud-africain a dit que certains groupes de rassemblement incitent à des attitudes négatives à l'encontre des étrangers. Les agences de sécurité surveillent afin que cela ne se transforme pas en violence, a-t-il précisé. Assurant que les Sud-Africains ne sont pas xénophobes, M. Ramaphosa a promis de s'occuper des inquiétudes liées à la question de l'emploi des autochtones. Avec 35% de la population active au chômage, un chiffre qui grimpe à 65% chez les jeunes, la concurrence sur le marché du travail suscite des rancœurs parmi les Sud-Africains sans emploi. Près de 4 millions d'étrangers vivent en Afrique du Sud, sur une population d'environ 60 millions d'habitants. En 2019, des émeutes xénophobes avaient fait une douzaine de morts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien a promis hier que son pays va se défendre contre toute invasion russe. Volodymyr Zelensky a assuré, comme ses alliés occidentaux, ne pas constater de retrait réel des soldats russes de la frontière, contrairement à ce qu'a annoncé Moscou. Les précisions avec Eric Manirakidza.
Volodymyr Zelensky s'est rendu dans l'est du pays, à Mariupol, près de la ligne de front avec les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou. Nous n'avons peur d'aucun pronostic, n'avons peur de personne, car nous allons nous défendre, a annoncé M. Zelensky, vêtu d'une tenue militaire à l'occasion de la journée de l'unité qu'il a décrétée. Il a aussi dit ne pas avoir vu de changement réel dans la concentration de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Nous voyons une accumulation de troupes qui n'a pas changé ces dernières semaines, a indiqué le président ukrainien, disant avoir simplement constaté de petites rotations. Les Occidentaux s'inquiètent depuis des semaines des risques d'une attaque de l'Ukraine par la Russie qui a massé plus de 100 000 soldats près de la frontière. Le président américain Joe Biden s'est dit ouvert à la diplomatie, une annonce saluée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Tout en multipliant les tractations diplomatiques, Américains et Européens ont prévenu que des sanctions économiques massives sont prêtes en cas de passage à l'acte de Moscou qui dément toute volonté d'invasion.
La Maison-Blanche a affirmé hier que la Russie n'avait pas retiré de troupes à la frontière de l'Ukraine, mais qu'au contraire, Moscou avait ajouté jusqu'à 7000 militaires aux portes du pays, renforçant les craintes d'une invasion russe.
Et au Brésil, au moins 94 personnes sont mortes et 35 portées disparues dans les inondations et glissements de terrain provoqués par les pires pluies en près d'un siècle dans la ville touristique de Petrópolis, près de Rio de Janeiro. Et la Minute Éco, Nanit Talani.
En Libye, en février, la production pétrolière a chuté de 100 000 barils par jour à cause de la mise hors service de 11 de ses 19 réservoirs de pétrole. La Société nationale des hydrocarbures est incapable d'assurer la maintenance des réservoirs endommagés par les conflits armés. La société annexe Waha, spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel, a été contrainte de réduire sa production par manque de capacité de stockage et la suspension du trafic maritime dans les ports du golfe de Sirte. La croissance économique de l'Algérie a rebondi de 3,4% au troisième trimestre après une baisse de 5,1% durant la même période en 2020 selon l'Office national des statistiques. Cette croissance est caractérisée par une forte hausse des activités économiques dans les hydrocarbures, l'industrie, les bâtiments aux travaux publics, l'hydraulique, les services et travaux publics pétroliers. Terminons par le Maroc qui vient d'approuver la mise en œuvre du fonds Mohamed VI pour l'investissement dont le capital initial sera de 15 milliards de dirhams. Ce fonds va financer les grands projets des petites ou moyennes entreprises. Il va contribuer aussi au capital des grandes entreprises publiques et privées actives dans les domaines prioritaires en mettant en place des instruments financiers comme les avances, des prêts remboursables et des fonds semi-autonomes.
Et les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Dernier tour aller des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. 4 matchs au programme hier. Burkinabé et Burundaise ont fait un grand pas vers la phase finale. Le Burkina Faso a corrigé la Guinée-Bissau 6-0 et le Burundi a étrié Djibouti 6-1. Dans le derby, le Sénégal s'est imposé face au Mali 1-0. Deux pays qualifiés sur 12 sont connus, le Maroc, pays hôte, et l'Ouganda, parce que le Kenya a déclaré forfait. Ces matchs allés des éliminatoires se poursuivent ce jeudi avec une seule rencontre au programme Togo-Gabon. En Europe, hier, en Ligue des Champions, Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah s'est imposé dans le choc allé des huitièmes de finale contre l'Inter de Milan du portier camerounais André Onana 2-0. Dont un but de l'Égyptien Mo Salah. Dans l'autre match de ses huitièmes allées, le Bayern Munich du champion d'Afrique Bounassar a été accroché par Salzbourg 1-1. En Ligue Europa ce soir, tous deux ont manqué la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, mais espèrent rebondir sur la scène européenne. Les attaquants Pierre-Emerick Aubameyang et Victor Osimhen ont une revanche à prendre ce jeudi dans l'alléchant barrage allé entre le FC Barcelone et Naples. Osimhen, incertain, doit prouver qu'il est bien la référence offensive de Naples, tandis qu'Aubameyang, arrivé en janvier, espère mener le club catalan vers le sacre en Ligue Europa, une compétition que le Barça retrouve 18 ans après. Le Séville FC, septuple vainqueur de la Ligue Europa, reçoit le Dynamo Zagreb alors que le Betis Séville se déplace chez le Zénith Saint-Pétersbourg. Autre affiche de ces barrages, Porto reçoit la Lazio Rome. Reversé cette année en Ligue Europa, l'Atalanta Bergame est opposé à l'Olympiakos. Des nouvelles des Jeux Olympiques de Pékin, la Nigériane spécialiste de monobob et de skeleton, Simidele Adeyabo, absente à ces Jeux, pense qu'elle y serait n'eût été ce qu'elle qualifie de discrimination basée sur le sexe. Elle dit avoir subi une discrimination fondée sur le sexe dans les places attribuées aux hommes et aux femmes aux Jeux de Pékin. Les hommes se voient attribuer 28 places dans l'épreuve de bob à 4 et 30 places dans le bob à 2. Les femmes, elles, ont droit à 20 places en monobob et 20 en bob select à 2. Adeyabo pense qu'elle serait aux Jeux Olympiques de Pékin si les règles étaient différentes. Elle a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération internationale de bob select et de skeleton. Simidele Adeyabo, athlète nigériane de monobob et de skeleton.
C'est vraiment très frustrant. J'ai fait tellement de progrès, rien qu'en voyant comment j'ai grandi et je me suis améliorée dans le sport. Et je veux juste être en compétition avec les meilleurs du monde. Et donc c'est vraiment frustrant de voir cet élan brisé. Bref, pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait ou d'un manque de talent ou de compétences, mais simplement parce que les règles en place sont illégales et discriminatoires.
Simidele Adeyabo, athlète nigérian de monobob et de skeleton. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
LA Lakers et Utah 106-101, Denver et Golden State Warriors 117-116, Brooklyn Nets et New York Knicks 111-106, Détroit et Boston 112-111, Indiana et Washington 113-108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président français Emmanuel Macron a invité hier soir à Paris quelques présidents africains pour se pencher sur le retrait éventuel des forces françaises du Mali et un redéploiement dans d'autres pays du Sahel. Les grands absents ont été le Mali et le Burkina Faso. Que pensent les Maliens de cette réunion cruciale qui sera peut-être en tournant dans les relations entre la France et le Mali? Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Le Mali et le Burkina ont été les grands absents à cette rencontre pour aborder l'avenir de la force française Barkhane et de la force européenne Takuba. Cette absence du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, à cette rencontre ne surprend pas Amadou Diallo, membre du mouvement Convention pour le Mali, un groupement de soutien aux autorités de la transition.
Ce qui concerne le Mali, c'était prévisible. Parce que aujourd'hui le Mali est l'épicentre de cette crise aujourd'hui de la France en Afrique de l'Ouest. Tout est parti évidemment de l'interruption du régime et d'Ibrahim Boubacar Keïta par les militaires et à la suite d'une pression, d'une forte pression du mouvement populaire. Depuis le changement.
Si les relations entre les autorités de la transition malienne et les autorités françaises sont tendues depuis un bon moment, ils sont nombreux qui estiment que les forces françaises et européennes doivent encore rester aux côtés de l'armée malienne pour mener la lutte contre le terrorisme au Sahel et plus particulièrement au Mali. Aboubacar Berthé, journaliste malien, fait partie de ces partisans de la coopération militaire avec la France et l'Europe.
Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est une incompréhension. Paris devait vraiment revoir sa décision et toujours négocier avec les autorités de Bamako pour vraiment trouver un accord par rapport à la lutte contre le terrorisme au Mali, dans le Sahel, qui gagne du terrain. Donc, c'est pas le moment vraiment, malgré que... Bien que d'autres, beaucoup de Maliens demandent le retrait des Balkans, moi je pense que c'est pas le moment. On peut se retrouver encore autour de la table et décider de prendre la meilleure décision par rapport à la lutte contre le terrorisme.
Le départ de ces forces militaires françaises et européennes, si cela venait à être décidé pour Amadou Ouattara, enseignant, cela n'affecterait en rien les autres secteurs de développement dans lesquels le Mali et la France sont partenaires.
Sur le plan du développement, c'est vrai que la France est un partenaire stratégique pour le Mali. La France est un partenaire historique pour notre pays. Donc je crois que le fait que les forces françaises vont se retirer de notre pays, eh bien, cet état de fait ne va pas impacter sur la coopération en matière de développement.
Les autorités maliennes attendent toujours la réponse de Paris sur la relecture des conventions militaires qui lient les deux pays. Le président ivoirien Alassane Ouattara a estimé hier depuis Paris que le retrait des troupes françaises et européennes du Mali va créer un vide qui va obliger les armées ouest-africaines à être en première ligne dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Après plus d'un mois d'embargo sur le Mali, les effets ne se font pas sentir dans le domaine des transferts d'argent effectués par les Maliens résidant au Sénégal. Ils continuent quotidiennement d'effectuer leurs transferts d'argent vers leurs familles, leurs proches et pour les affaires dans leur pays d'origine, sans passer par les banques. Reportage de Nama Diarra, notre correspondant à Dakar.
Les différences avant là, tu peux aller au banquier, tu as envoyé les durettes, mais maintenant, il faut que tu fais par le trafic ou de quelque chose, mais ça rentre bien. Tu peux envoyer, tu peux recevoir d'argent ici.
Dans une boutique qui vend du bazin au marché malien à Dakar Plateau, Aliou Diko est venu envoyer de l'argent à sa famille au Mali. Souleymane Mangasouba, un agent commercial, abonde dans le même sens, mais il a aussi évoqué les difficultés de ces transferts gérés par des Maliens ici à Dakar.
Déjà, on a des Maliens qui sont ici et ils font des transferts d'argent qui ne sont pas dans les transferts comme Western Union, Iria, MoneyGram. C'est des Maliens qui sont ici. Quand ils leur donnent de l'argent ici, ils vont vous donner les numéros de leur assistant au Mali. Vous allez appeler vos parents, donner ces numéros. Le montant de l'argent que vous avez envoyé, comme ça, ils vont aller récupérer ça là-bas. C'est fiable parce que les frais sont moins chers.
Est-ce que parfois il y a des difficultés dedans?
Difficulté qui est là-dedans, souvent, bon, l'argent que vous allez payer ici pour que tes parents puissent toucher ça au Mali, ça peut être qu'eux, ils n'ont pas ces montants-là. C'est ça seulement qui peut être la difficulté.
Le président du marché malien de Dakar, Sinani Baba Traoré, indique aussi qu'il continue de commander des marchandises de la manière habituelle depuis le Mali, malgré l'embargo.
Jusqu'à la fin de l'embargo, Inch'Allah, on va tout faire pour mieux nourrir. Parce que la porte est fermée, c'est pas totalement fermé. Hein. Les gens passent là-bas. Même si c'est dur, nous on peut cotiser, on va essayer de déléguer quelques personnes pour aller là-bas, donner l'argent aux Maliens pour qu'ils puissent nous fournir ici. Ça aussi c'est possible.
En faisant ça, est-ce qu'avec la douane, vous ne rencontrez pas de difficultés?
C'est la douane même qui nous donne des questions, c'est la douane qui prend de l'argent. Seulement c'est des business.
Les transactions bancaires ne fonctionnent plus à cause de l'embargo de la CEDEAO et de l'IOMA sur le Mali. Malgré tout, les transitaires Amadou Boly, qui est maintenant au chômage, soutient fortement la transition malienne dirigée par le colonel Assimi Goïta.
Les transactions bancaires, ça ne passe pas.
Est-ce que cela vous a causé des problèmes aujourd'hui?
Oui, bon, ça a causé des problèmes, ça n'a pas causé des problèmes. Parce que si le travail marchait, ça avait causé des problèmes. Mais comme que tout est gelé, donc ça ne cause pas de problème. Oui, on est là, on attend jusqu'à un nouvel ordre. Nous, on soutient la transition malienne. Moi, depuis l'indépendance à nos jours-là, ce que j'ai vu, ce que la transition-là est en train de faire au Mali, il n'y a aucun pouvoir qui est venu au Mali qui l'a fait. Donc on les félicite, on les remercie. Même s'il nous faut 100 ans, on va rester comme ça. Mais on préfère vraiment de vivre comme ça.
Les Maliens résidents à Dakar restent déterminés à accompagner la transition, malgré l'embargo qui les prive des transactions bancaires et des voyages beaucoup plus coûteux pour partir du Sénégal au Mali. Nama Diarra, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a été investi hier président du Faso par le Conseil constitutionnel. Sa priorité, la restauration de la sécurité dans le pays ravagé par de nombreuses attaques terroristes. Les populations attendent beaucoup du nouveau dirigeant burkinabé, Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso.
Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso, chef de l'État, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions.
La main droite levée, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il devient ainsi président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Dans son premier discours après sa prestation de serment, le lieutenant-colonel Damiba veut restaurer l'intégrité territoriale.
La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes afin de les rendre complémentaires, interopérables pour un maillage efficient du territoire. Cela permettra de mieux soutenir notre choix stratégique, d'orienter résolument notre action vers l'offensive contre tous les groupes armés qui resteront dans une logique de répandre la violence de façon aveugle au sein de nos communautés.
Dans les rues à Ouagadougou, les populations savent qu'il faut aller vite.
On va voir comment ça va se passer. Sinon, en matière de sécurité, ça ne va pas. Jusqu'à l'heure actuelle, les Bukinabés sont inquiets. On attend ce qu'on voit, ils vont se mettre le gouvernement en place.
C'est très bien. Vu ce qui se passait, il est venu pour restaurer et sauvegarder nos acquis. Vraiment, moi, je le souhaite un bon vent. On souffre toujours. Lui, il ne peut pas tout éradiquer. Il vient seulement, il fait ce qu'il peut. Et puis bon, il sert le pouvoir à quelqu'un d'autre aussi.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba devient le premier président du FASO à prêter serment devant le Conseil constitutionnel à la suite d'un putsch. Dans les jours à venir, il devra mettre en place un gouvernement. Une commission travaille déjà sur l'écriture d'une charte de la transition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le bicentenaire de l'arrivée des premiers Noirs d'Amérique sur ce territoire qui deviendra plus tard le Libéria. Ces esclaves affranchis sont arrivés sur les côtes africaines le 14 février 1822 dans le cadre d'un mouvement de retour vers leur terre d'origine lancé aux États-Unis. Mais le Libéria a connu une histoire politique mouvementée et des relations heurtées entre autochtones et ceux qui s'y sont nouvellement installés. Quelles leçons tirées du Libéria? Vers quel type de relation entre l'Afrique et sa diaspora? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Nigeria, la police a déclaré lundi avoir arrêté 5 officiers, dont un de haut rang, pour leur implication présumée dans un cartel international de contrebande de cocaïne. Le commissaire adjoint Abba Kyari était déjà suspendu depuis le mois d'août pour blanchiment d'argent et fraude aux États-Unis. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Nathalie Barge.
L'Agence nationale antidrogue affirme que l'officier de police a comploté pour voler 15 kilos de cocaïne dans un lot saisi en janvier. Elle a publié des images montrant Abba Kyari en train de négocier avec un agent d'infiltration de l'agence et lui remettre plus de 60 000 dollars en espèces. Le commissaire adjoint était déjà accusé d'avoir aidé un criminel international connu sous le nom de Ushpupi Mentim à blanchir de l'argent aux États-Unis, selon une enquête du FBI. Baba Femi, porte-parole de l'Agence nationale de lutte contre la drogue.
Nous avons une mine de renseignements, des faits concrets allant des discussions aux photos et vidéos et une transcription détaillée de la communication entre lui et l'officier de l'agence. Les 15 kilos déjà sortis ont été partagés entre les informateurs qui lui ont fourni les informations pour la saisie, lui-même et ses hommes de l'équipe d'intervention du renseignement de la police.
Selon la police, le cartel travaille avec des agents anti-drogue à l'aéroport international de l'État d'Enugu, dans le sud-est du pays, voie de transit de leurs opérations. Les Nigérians sont consternés par l'implication de policiers dans des affaires de drogue. Daniel Yerima, un habitant d'Abuja.
C'est assez décourageant et décevant. La situation est vraiment épouvantable et cela renforce encore la méfiance des citoyens nigérians envers les forces de l'ordre. Si quelqu'un qui est aussi haut placé pourrait être impliqué dans ces niveaux de criminalité, cela vous montre la pourriture qui est dans les systèmes.
Le Nigeria est classé parmi les pays où le trafic et la consommation de drogue sont les plus élevés en Afrique de l'Ouest. En décembre dernier, les autorités ont lancé un plan de lutte contre la drogue, parrainé par l'Union européenne et sous la supervision de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Femi Baba Femi souligne que ces missions pour identifier les criminels sont très périlleuses.
Nous n'ignorons pas les menaces qui pèsent sur la vie des officiers impliqués dans cette enquête et nous continuons à faire de notre mieux pour les protéger dans l'exercice de leurs fonctions.
Les officiers arrêtés sont membres d'un réseau de drogue opérant au Nigeria, en Éthiopie et au Brésil. Abba Kyari ne s'est pas présenté à une convocation de l'agence antidrogue pour un interrogatoire la semaine dernière.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Segoudia et Jacques Aristide, à la mise en onde de Lionel Gahima et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.